Bienvenue au podcast Sebeni Ni Tama, une émission inspirante qui explore le parcours de vie, les histoires de femmes leaders, tout en encourageant la connaissance de soi, la réappropriation de nos propres histoires. Il s'agit de conversations intimes et engagées, où nous parlons bien-être, santé mentale, vie professionnelle, entrepreneuriat, littérature, art, culture, writing. Vista est avant tout une femme engagée. Elle est avocate, chercheuse en droit et elle s'intéresse particulièrement aux thématiques relatives à la justice sociale. Elle est également membre du collectif Faites des vagues, qui a pour but de susciter la réflexion et l'action par la culture, les arts et le débat, autour des questions sur les identités et les appartenances multiples, dans un contexte où les violences et les inégalités qui touchent les personnes minorisées ne décroissent pas. Elle a également créé un blog qui s'appelle Vidare, où elle partage sa passion pour la lecture, à travers lequel elle explore la pensée critique à travers la littérature noire, arabe, persane, féministe. Bonjour Vista et merci beaucoup d'être là. Tu es une slasheuse, juriste, avocate et aussi chercheuse en enseignante en droit. Tu tiens un blog littéraire dont on va longuement parler et tu fais partie du collectif Faites des vagues. Alors aujourd'hui, on va un peu discuter de ton parcours personnel, professionnel, associatif, mais surtout de l'impact des activités de la littérature et l'engagement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir comment ça va en ce moment, en cette période post-confinement. Comment tu te sens aujourd'hui?
Salut, donc merci beaucoup pour l'invitation. Déjà, ça me fait vraiment super plaisir. Et vraiment, j'étais là, mais qu'est-ce que tu veux que je raconte sur moi?
Toi, tu vas raconter beaucoup de choses.
Ça va. Je dois dire que j'ai eu de la chance pendant cette période dans mon entourage, tout le monde allait bien. Ça, c'était déjà une grande chance. Et puis cette période un peu post-confinement, je dois dire que j'ai un peu de la peine à me mettre au rythme d'avant. Je me réadapte.
Mais peut-être que justement, l'idée, c'est pas de revenir au même rythme si ce rythme-là ne.
Non, mais c'est sûr. Mais après, moi, c'est vrai que pendant le confinement, j'ai vraiment beaucoup moins travaillé. J'avais mon fils pendant 2 jours. Enfin, vu que la crèche elle a fermé, j'ai un garçon de 2 ans et demi. J'étais censée bosser sur ma thèse et faire le travail que je dois faire à l'Uni en tant que responsable d'un cours. Et j'ai fait le travail que je devais faire en tant que responsable du cours duquel je suis co-responsable, mais j'ai rien pu faire pour la thèse. Ce que ça m'a permis un petit peu ce confinement, c'est de me dire que je suis plus mobile sur mes horaires, que je suis pas obligée de me tuer à la tâche. Enfin voilà, si je sens que j'ai des moments où je travaille mieux, que je peux vraiment me concentrer sur ces moments-là, et quand même que je m'y mette.
Mais je vois ce que tu veux dire. Alors, je pense qu'on comprend mieux le parcours de quelqu'un en revenant à la source. J'aimerais bien que tu me partages de ton enfance, de ton adolescence. Comment décrirais-tu Vista, la petite fille, l'adolescence? Qu'est-ce qui te passionnait à l'époque? C'était tes rêves, tes aspirations? Qu'est-ce qui te dérangeait déjà?
J'ai très vite voulu faire du droit. Enfin, vraiment, à mes 11 ans, je savais que je voulais faire du droit. Je savais que j'étais attirée par des questions de justice, mais vraiment hyper, de manière super idéaliste, le rôle de l'avocate qui va sauver, qui va sauver ses clients et sauver le monde, du coup. Et puis j'étais déjà intéressée par les questions de droit des personnes, de droit de la migration, en lien avec ça plutôt. J'ai très vite eu envie de faire ça et j'ai un peu continué sur ce même chemin pendant tout le long de mon parcours.
Et comment t'es venue ce rêve? Parce que c'est tôt, 11 ans, en fait.
Mais là, si je l'ai dit, ça va détruire toute l'image. Je vais quand même le dire. En fait, j'étais fan du film Legally Blonde.
Ah! C'est quoi? J'ai pensé à une série, en fait, ou un film.
Non, mais ça, c'était, en plus, je sais même plus qu'est-ce qu'elle faisait, mais je sais pas, elle avait des chiens, et puis elle devait défendre quelqu'un, et puis en fait, elle savait tellement comment est-ce qu'on faisait une manicure ou je sais pas quoi, qu'elle savait que ce que disait la personne, ça pouvait pas être vrai. Et puis en fait, elle avait gagné le procès. Et du coup, j'étais là, oh waouh, c'est trop beau. Ça, c'était ma première source d'inspiration. Et puis après, enfin, je sais pas, j'étais sensible à des questions d'injustice. Mais après, enfin voilà, l'injustice, c'est chacun a sa propre vision d'une certaine justice. Mais je sais pas, ouais, ça m'a toujours intéressé, ça, en tout cas.
Tu as grandi et dans l'environnement familial?
Je suis née à Lausanne et après avec ma mère, on est partis les deux ensemble à Berne quand j'avais 11 ans. Et donc j'ai grandi à Berne. Enfin, c'est vraiment ma ville où j'ai fait, enfin voilà, toute mon adolescence, etc. C'est vraiment Berne, c'est ma ville, quoi. Quand j'étais adolescente, j'ai commencé l'école. Donc, en fait, à Berne, c'est officiellement bilingue. On peut choisir d'aller à l'école soit en français, soit en allemand. Donc, ma mère, elle parlait pas allemand. Moi, je suis allée à l'école en langue française. Et donc, dans cette école, j'ai rencontré ma sœur. Enfin, c'est vraiment ça. Donc, j'ai rencontré Jinan, qui est donc vraiment ma sœur de cœur. On est devenus super proches et nos parents se sont rencontrés. Ils sont aussi devenus très proches. Et en fait, ses parents, elles partaient au Sénégal et c'est ma mère du coup qui ils ont demandé à ma mère si ma mère était d'accord de garder la famille. Et du coup, c'est ma mère qui nous a gardés pendant une période pendant que eux sont partis au Sénégal. Donc du coup, en fait, je suis passée de fille unique à une grande fratrie. Donc c'était assez particulier, ouais, c'était une adolescence assez j'ai eu tout d'un coup des frères et sœurs, surtout tout d'un coup à mes 13 ans. et puis c'était cool, quoi. Enfin, j'ai un bon c'était la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie.
Waouh. Et jusqu'à aujourd'hui, vous restez toujours
Ouais, on est une famille. Enfin vraiment, on a nos deux mamans. on est très très proches. Ma mère, tout le monde vit à côté les uns des autres à Berne. On est vraiment, ouais, on est comme une grande famille, quoi. On est une grande famille de cœur, en fait.
C'est vraiment beau. Quelque chose qu'on retrouve beaucoup, enfin mon pays, mais pas forcément en Europe. C'est assez rare.
Bon, ma mère, elle est iranienne, hein. Oui, mes parents, ils sont iraniens. C'est vrai que c'était, on a de la chance parce que nos parents sont, la notion de famille, c'est une notion de large, enfin, tant pour, justement, pour ma mère que pour la mère de ma famille bernoise, entre guillemets. Enfin, c'est une notion plus large, quoi. Ça comprend pas le sang. C'est vraiment, la famille, c'est quelque chose de large. Ça constitue les amis, ça constitue les gens avec lesquels on grandit.
Jinan, elle est suisse-sénégalaise.
Ouais, elle est suisse-sénégalaise, mais elle parle persan. Enfin, du coup, elle a appris le persan.
Ah, waouh.
moi j'ai appris le suisse allemand avec eux, enfin dans leur famille, du coup. Et donc, elle est venue plusieurs fois avec moi en Iran. Enfin, ouais, elle parle mieux le persan que le wolof. Moi, elle aimerait pas. Elle aimerait pas l'entendre. Wow. Elle le dit elle-même, elle parle mieux le persan que le wolof, donc on est un mélange de famille, quoi.
Belle histoire. Je sais pas, vous allez en faire quelque chose.
C'est un échange, j'avais pas y pensé. Je me dis, mais tu sais, on devrait, je sais pas, écrire un truc sur notre famille. Mais bon, on verra. Déjà là, ça laisse une trace avec ton podcast.
Oui. À présent, on va un peu plus parler de Vida Read, un blog qui explore la pensée critique, la littérature noire, arabe, persane et féministe. J'aime vraiment beaucoup. Et aussi avec le compte Instagram où tu es assez actif, c'est rempli de pépites. C'est du contenu qui m'interpelle, qui m'intéresse, auquel j'aurais difficilement eu accès à travers les médias classiques. Lorsqu'on rentre dans ton univers, on se sent stimulé et à force de voir ces livres, bien sûr qu'on va tenter on va être tenté d'en acheter certains, d'en consulter. Franchement, donc c'est top d'un point de vue intellectuel.
Merci, ça fait trop plaisir.
Je partage avec mes amis. C'est aussi ce qui revient énormément. Comment ça a débuté et pourquoi?
Alors, je dois dire que quand j'étais plus jeune, enfin voilà, quand j'étais à l'école et au gymnase, j'aimais beaucoup lire. J'aimais lire, mais j'avoue que je me souviens plus exactement même de ce que je lisais. Et en fait, il y a toute une période où j'ai vraiment perdu goût à la lecture. Tout ce que je lisais, c'était que des essais. Puis les essais, c'est pas super facile à lire, donc c'est des trucs qui se lisent lentement. pour lesquels tu dois vraiment, enfin voilà, un peu, tu prends du temps à les lire, etc. Et en fait, j'ai vraiment repris goût à la lecture avec les cercles de lecture afrolite à Genève, en fait. Je sais pas si tu connais, c'est les cercles de lecture qui sont organisés par Pamela.
Oui, par la littérature d'afro-descendants.
Exactement, donc c'est en allant... Enfin voilà, je lisais, ça faisait, je pense, je sais pas, plusieurs années vraiment que je lisais plus de romans. Et en fait, j'ai commencé à aller à ces cercles de lecture. Et puis du coup, à chaque fois, ce qu'elle fait, c'est que tu dois, elle propose une lecture, on la lit, et puis ensuite tout le monde en parle. Elle modère la discussion, elle a préparé des questions, etc. Et donc j'ai commencé avec ça. Et en fait, ça m'a vraiment redonné goût à la lecture, mais vraiment. Enfin, j'ai découvert justement des auteurs et des autrices que je connaissais pas, des récits comme j'avais rarement l'occasion d'en lire en fait. Mm-hmm. Et justement, enfin, tu peux explorer la littérature et c'est pas, enfin voilà, c'est pas les livres qu'on te donne à tes cours de français. D'ailleurs, c'est trop dommage. Enfin, j'en ai tellement voulu à tous mes profs de français. Succéder.
Je te comprends.
Avoir. C'est tellement, et puis même mes profs d'anglais, tu vois, enfin, dans la littérature anglophone, ils auraient pu tellement nous donner des livres intéressants à lire. En fait, je sais pas. En tout cas, c'était pas des livres qui m'ont donné envie de lire, les livres que j'ai lus.
Je crois qu'on a lu beaucoup de Shakespeare.
Mais même, moi, j'ai même pas lu du Shakespeare. Franchement, je sais même plus ce que j'ai lu, tellement ça m'a pas marqué. Ouais, ça m'a pas marqué.
T'es trop drôle, d'accord.
Et du coup, enfin, là, c'est vraiment les cercles de lecture afrolite qui m'ont complètement redonné envie de lire. Et en fait, on se rend compte aussi que dans la littérature que Pamela du coup nous conseillait à lire, il y a toujours des références aussi à l'intérieur même des livres, à d'autres livres de personnes afrodescendantes. Enfin, il y a des sortes de bibliographies insérées dans le texte en fait, en disant, enfin, c'est des personnages qui font référence à certains ouvrages, ou alors si c'est des récits plus autobiographiques, il va y avoir des inspirations. Et du coup, je suis toujours allée chercher plus loin. Et en fait, j'ai vu que voilà, enfin, c'était à quel point ça pouvait être riche, à quel point en fait la littérature, ouais, ça pouvait. En fait, je pense que ça peut paraître un peu peut-être étrange ou quoi, mais c'est vrai que le lien, le rapport à des questions d'immigration, d'exil ou de ouais, des questions d'appartenance et d'identité qui se posent en fait. Dans la littérature, ou le lien avec des pays d'origine. Enfin, il y a toujours des questions en lien avec le déracinement, l'enracinement. Il y a toujours des débats qui sont abordés dans ces littératures. Et en fait, ça me parlait beaucoup. Et ça, c'est ça qui m'a vraiment attirée et qui m'a vraiment donné envie de lire plus. Et peut-être de manière un peu étrange, qui me permettait aussi parfois de m'identifier au personnage. Après, j'ai pas toujours besoin de m'identifier pour pouvoir apprécier la lecture, mais de voir, enfin voilà, une autre vision en fait du monde, qui était une vision qui me parlait beaucoup plus en fait. C'est ça. C'est donc du coup en allant à ces cercles de lecture, en commençant à lire de plus en plus, que ça m'a donné envie de partager aussi mes lectures sur Instagram pour que d'autres personnes puissent aussi avoir aussi, enfin. Parce que parfois, souvent, on ne sait pas par où commencer pour recommencer à aimer à lire, ou alors juste simplement aimer lire. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être une bonne occasion. Et aussi, je dois dire que c'est Bookstagram. Bookstagram, c'est le vice absolu, parce que toutes les personnes que je suis, elles lisent des livres super intéressants. Et du coup, j'ai pas arrêté d'acheter des livres.
tu les as vus
à tous. J'ai une énorme pile à lire que j'ai pas tout lu, mais ouais, enfin, je sais pas, c'est un bon endroit d'échange où les personnes partagent leur lecture, et puis c'est des personnes qui ont les mêmes intérêts de lecture, qui sont attirées par les mêmes choses, et du coup, c'est hyper intéressant de voir tout cet univers en fait.
Je comprends absolument ce que tu veux dire à travers les rencontres d'Afrolite. Ce que Pamela fait très bien, c'est qu'elle fait toujours un lien aussi avec les thématiques et la société dans laquelle on vit. On n'est pas obligé de s'identifier. Ça fait du bien de pouvoir retrouver ces problématiques dans la littérature.
Ouais, complètement.
Tu as peut-être pas lu tous les livres que tu as achetés, mais tu as lu énormément de livres, si on voit sur ta page Insta. Il y a quand même beaucoup de livres, donc... mais comment tu choisis ces livres, en fait?
Ben, je dois dire qu'il y a vraiment une période où j'ai complètement arrêté de lire des essais. Donc justement, un peu au début de Moussaram, je crois que c'était Avant déjà de commencer mon Bookstagram, donc vers 2016-2017, j'ai complètement arrêté de lire des essais, je lisais que des romans. Et du coup, j'achetais des romans. Et comment est-ce que je les choisis? Ben, je dois dire que Bookstagram m'aide beaucoup à les choisir, en fait, les comptes que je suis et que je vois, avec lesquels j'ai beaucoup d'affinités. Et donc je les choisissais comme ça. Et puis Pamela, elle faisait aussi des listes de lecture en été. Elle disait un peu, ah, je vous conseille de lire ci et ça. Donc ça, il y a vraiment beaucoup de lectures de conseils de Pamela que j'ai vues. Et puis après, j'ai commencé un peu à m'intéresser aux essais classiques, un peu dans la pensée critique, ou des essais post-coloniaux. Et puis c'est un peu, enfin voilà, et en fait dans tous les livres que tu lis, il y a toujours des références à d'autres livres, et en fait à chaque fois je souligne les références, et à chaque fois je me dis je vais aussi lire ce livre, et puis je vais toujours aller essayer d'aller de plus en plus à la source, et c'est comme ça un peu que je choisis.
D'accord. En fait, une fois qu'on s'intéresse à ce type de littérature, en fait, on peut juste pas sortir parce qu'il y a toujours, on est toujours stimulé par des conseils ou par d'autres références.
C'est exactement ça, c'est vraiment, enfin, tu te rends compte que c'est un univers vaste, souvent les auteurs entre eux ils se citent aussi dans les livres. Donc les livres qui les ont inspirés, les personnages des livres vont les lire. Et du coup, ça donne aussi plein d'idées de lecture, en fait. Donc ça c'est aussi une force, parce que ça permet aussi de créer des bibliographies grâce même aux romans que tu lis ou à des essais, parce qu'il y a d'autres livres qui sont cités à l'intérieur.
Je vois. Tu aurais pu continuer à lire tous ces livres sans créer ton blog ni l'Instagram. Quelle est ta motivation pour créer ces plateformes-là?
C'est vrai qu'en fait, aussi, une des raisons principales, c'était pour pas oublier, en fait. C'était pour pas oublier ce que j'avais lu, pour pas oublier ce que j'en avais pensé. Parce que moi, souvent, ça m'arrive, même un livre que je vais beaucoup aimer, je vais le lire et je vais me dire, ah, j'ai adoré ce livre, je vais me souvenir que je l'ai adoré, mais je vais pas forcément me souvenir pourquoi. Et surtout, je me disais, en fait, je pensais sur une logique de long terme, en fait, et je me disais, ben voilà, dans 5 ans, peut-être que je saurai plus les livres que j'ai lus et que j'ai aimés. Et puis, je dois aussi dire qu'en fait, j'ai aussi pensé à, c'est aussi pour une question un petit peu de transmission. Après, c'était plutôt surtout le blog. L'idée de la transmission Instagram, je sais pas si je l'aurai encore quand mon fils il aura grandi, mais de laisser un peu une trace des lectures, un peu faire une vie, parce qu'on sait pas ce qui va advenir des livres papier, enfin on sait pas où est-ce que la vie va nous mener, on sait pas si je pourrais les garder tous les livres que j'ai achetés, enfin on sait pas ce qui se passe, et du coup j'ai l'impression que c'était un peu créer une bibliothèque virtuelle pour pouvoir la transmettre si un jour, enfin voilà, si un jour mon fils il se demande qu'est-ce que je lisais, ou si voilà, si on perd nos livres, si voilà, c'est un peu créer une bibliothèque virtuelle des livres lus, en fait.
Très bonne démarche, hein. Non seulement tu fais profiter ta descendance, mais tu nous fais aussi non mais vraiment
Ben, j'aimerais bien, quoi.
tu nous fais aussi ouais, découvrir plein de choses. Et quels sont les livres qui t'ont le plus marqué?
Il y a beaucoup, je dois dire qu'il y a pas mal de livres ces dernières années qui m'ont beaucoup beaucoup marqué, mais il y en a peut-être, il y en a un en particulier dont j'ai un peu parlé ces derniers temps, c'est La prochaine fois le feu de James Baldwin.
D'accord.
Donc c'est un petit, enfin c'est une édition où dedans il y a deux textes de James Baldwin, il y a La prochaine fois le feu et un autre texte qui s'appelle Et mon cachot trembla. Donc ça, c'est une lettre qu'il écrit à son neveu. Et ça, c'est un texte qui m'a vraiment profondément marqué et qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup touchée.
Pourquoi?
Parce que c'était c'est un texte qui est très bien écrit, qui est très dur, en fait, qui parle justement des questions de race aux États-Unis. Et donc c'est James Baldwin qui s'adresse à son neveu en lui écrivant une lettre. Et le format de la lettre, en fait, ce format un peu épistolaire, je l'ai trouvé très beau, très touchant. Et puis c'est comme si, enfin c'est de l'ordre de l'intime, la lettre. Donc c'est comme si on lisait quelque chose d'intime qui se dise, que quelqu'un dirait justement encore, enfin son neveu, c'est comme son ascendance. Enfin voilà, c'est une question de transmission aussi. Et donc il parle à un garçon, et en fait ça m'a beaucoup Ça m'a beaucoup, beaucoup, ça m'a vraiment marqué et je l'ai trouvé très beau, en fait. J'ai trouvé que c'était un très beau texte. Donc ça, c'était un des textes qui m'a vraiment le plus marqué ces dernières années. Sinon, un autre livre qui m'a beaucoup marqué ces dernières années, ben, c'est un classique aussi de nouveau dont je parle hyper souvent, enfin, attention, compte Instagram, que tout autour de moi, en fait, c'est Tituba, moi Tituba sorcière. Sortir noir de Salem de Maryse Condé.
Oui.
Donc ça, pour moi, c'était un livre, c'est un roman, pour le coup, que j'ai adoré, qui m'a vraiment marqué, qui est en fait exactement le style de roman que j'aime, parce qu'en fait, elle part d'une archive, donc, du procès des sorcières de Salem, de l'histoire d'une femme esclave condamnée pour sorcellerie qui n'a jamais été documentée. En fait, la seule trace qu'il en reste, c'est ce procès. Et en fait, elle a créé l'histoire de cette femme. Elle a inventé l'histoire de cette femme. Et elle lui a donné vie à travers ce récit, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui m'a, voilà, c'est un peu l'histoire des vaincus, en fait. La vision, enfin, l'histoire des personnes qui ont été vaincues par l'histoire ou
qui ne sont pas dans les livres d'histoire.
Voilà, exactement. Les gens qui sont pas dans l'église, pas tellement des vaincus, parce qu'en fait, c'est invaincu, vu que sa force, elle continue à être transmise, etc. Mais, enfin, les personnes dont leurs récits ne sont pas racontés, dans l'histoire. Et pour moi, vraiment, c'est l'histoire d'une vaincue, c'est sorcière noire de Salem, et c'est une histoire fictive, inventée, qui part d'un récit d'archives. Mais c'est vraiment, pour moi, ça, c'était un des livres très, très marquants, pour moi, que j'ai vraiment beaucoup aimé.
Mm-hmm.
Et puis, sinon, j'aurais voulu dire Woman, Sex, Race and Class de Angela Davis. C'est aussi un livre qui m'a beaucoup marqué, mais je vais pas dire celui-là, mais je l'ai quand même cité.
Genre, je peux en parler, mais je dis non.
Ouais, exactement. Mais sinon, c'est une pièce de théâtre qui s'appelle Incendie et c'est de Wajdi Mouawad. C'est un écrivain libanais. C'est une pièce de théâtre qu'on m'avait offert une fois à Noël il y a très longtemps et qui c'est une des pièces de théâtre qui m'a le plus marquée.
Waouh. Dis-moi pourquoi.
Ça parle de nouveau d'une question d'histoire. Enfin, c'est une histoire de. Ça parle justement d'exil, de familles qui se cherchent, des questions de recherche des origines et d'une histoire. C'est une histoire familiale aussi. Mmh. Et en fait, c'est extrêmement marquant. C'est très court. C'est une pièce de théâtre qui est vraiment très courte, mais qui est extrêmement bien écrite et qui est très frappante, vraiment. Enfin, et puis aussi, il y a des aspects juridiques dedans, et ça, j'ai bien aimé aussi, je dois dire. Et ouais, c'est une très, très belle pièce de théâtre. C'est une magnifique pièce de théâtre, voilà. Enfin, je le conseille vraiment.
D'accord. T'as dit très, très belle, t'as dit magnifique, donc...
Ouais.
Je te crois. Dans mon introduction, j'ai parlé de tout ce que tu faisais. Donc, ça veut dire que t'es quand même pas mal occupée. Mais en même temps, tu lis énormément. Comment tu te donnes les moyens de lire davantage?
Ben, je dois dire que c'est quand même par phase. Il y a des phases où je lis beaucoup et il y a des phases où je lis pas du tout. Et en fait, les phases où beaucoup, c'est souvent que je remplace mon téléphone par de la lecture. Donc, à la place de traîner sur mon téléphone, sur Instagram ou là, depuis le confinement, sur TikTok, m'a bouffé tout mon temps.
T'as créé un compte?
Ouais, j'ai créé un compte, mais non privé. C'est juste pour pouvoir aller regarder les TikTok. c'est en fait je remplace le temps que je passerais à traîner sur Instagram ou sur TikTok à lire en fait. Et en fait ça permet de déjà ça montre à quel point je suis tout le temps sur mon téléphone parce que du coup ça fait que je lis beaucoup. Et sinon ouais c'est
bref,
c'est quand même
justement Instagram a mis un minuteur où il permet de calculer le nombre d'heures que tu passes par jour sur l'application et c'est déplorable, hein. Voilà.
Ah ouais, non, mais moi aussi, enfin, il y a vraiment des moments où je me dis, mais comment c'est possible, même dans une journée, que j'ai passé autant de temps sur mon téléphone. Et du coup, je remplace mon téléphone par un livre, et en fait, à chaque fois que j'ai envie de prendre mon téléphone juste pour traîner dessus, je sors mon livre et je le lis. Et, j'ai toujours mon stylo et mon livre, et j'aime trop souligner, écrire des trucs dans mes livres. Et du coup, Mais par contre, ça le fait pas quand t'es avec des gens. Alors que bizarrement, prendre ton téléphone et aller scroller sur Instagram alors que t'es avec des personnes. Bon, déjà, c'est un peu limite, mais on le fait tous. On le fait toutes et tous. Mais par contre, sortir ton livre. Ça fait vraiment genre super asocial. Genre, c'est bon. Je vous écoute plus. Je suis à fond dans mon livre. Mais, après ça, je le fais pas. Je le fais pas parce que, mais du coup, je sors pas non plus mon téléphone. Mais c'est vrai que je remplace, du coup, tous mes moments de téléphone par de la lecture. Et puis, c'est aussi parce que j'ai envie d'être moins sur mon téléphone et plus sur des livres, de nouveau pour une question de donner l'exemple à mon fils, en fait, que c'est pas que le téléphone, le prolongement de ma main, que je suis tout le temps dessus, mais que je peux aussi passer du temps à lire. Et du coup, on lit aussi beaucoup ensemble. Lui, il adore qu'on lui lise des histoires.
Donc, on va un peu plus parler des études, de ta vie professionnelle. Toi, tu allais faire des études à Genève. Comment ça s'est passé? Déjà, tu m'as dit que depuis toute petite, tu voulais faire
du droit.
Mais est-ce qu'au final, parfois, quand on est devant le fait accompli, on peut être un peu déçu, ou on peut regretter, ou on peut se poser des questions. Comment est-ce que tu as vécu cette période?
Ah non, c'est sûr que j'étais. Enfin, quand j'ai commencé du coup les cours de droit à l'université, j'étais super déçue parce que, voilà, déjà j'ai toujours un peu eu de la peine. Je devais tout le temps faire les rattrapages. Ça me semblait pas concret en fait, et ça me semblait mort. Enfin, je sais pas comment dire. Ça suscitait pas mon intérêt et ça me faisait pas penser à de la justice sociale, ce que je recherchais en fait. Et du coup, après justement, j'ai eu un cours que j'ai pu faire pendant le bachelor, celui dont je suis co-responsable maintenant, c'est le clinique sur le droit des personnes vulnérables. Et en fait, j'ai postulé pour ce cours, et donc c'était sur le droit des personnes roms en situation précaire à Genève, et c'est ça qui m'a redonné l'envie de vraiment faire du droit, en fait, de vraiment continuer en fait cette voie-là. Donc j'ai fait ce cours-là, et après l'autre moment super révélateur dans
ma... Et ça, c'était à quel moment ton cursus?
Parce que t'as fait un bachelor.
Ok.
Non, bachelor, j'étais en deuxième année de bachelor.
D'accord. Ah bah heureusement.
Ouais, non, heureusement c'est
vu. Il y a eu ça, quoi.
Sinon, j'aurais été complètement démotivée.
Oui.
Et en fait, et après pour mon master, en fait, j'ai fait une demande pour faire un échange dans une université au Mexique, donc l'UNAM, qui est l'Université Nationale Autonoma de México. Et donc j'ai fait un échange là-bas dans une spécialité qui s'appelle genre et droit. Donc c'était vraiment des questions de féminisme et droit.
Wow.
Au Mexique. Et ça c'était pour moi, c'était la révélation académique qui a fait que j'ai retrouvé vraiment goût au droit. Enfin, c'était une faculté de droit super engagée. Les femmes avec lesquelles j'étais en cours étaient des femmes super engagées. Enfin, c'est ça qui m'a vraiment donné encore plus envie de continuer, quoi.
Waouh, c'est vraiment inspirant. Que ce soit aussi engagé qu'il y a un cours genre et droit. Mexique, au final, il n'y a pas cet engagement à Genève.
Droit. Ah ouais, non, mais laisse tomber, la faculté de droit à Genève, c'est... si, en fait, on apprend le droit à Genève comme si c'était... Déjà, comme si on était tout le temps dans la position du juge et comme si c'était quelque chose de neutre. Comme si c'était pas influencé par la politique, comme si... Mmh. Et puis même, je trouve que même comme la manière dont on l'apprend même pas comme des avocats. Enfin, c'est super difficile la première fois, quand t'as fini tes études de droit à Genève, de devoir prendre position. T'as l'impression, alors que c'est constamment ce que fait un avocat, ou ce que fait un procureur, ou ce que fait même un juge, tu vois, il doit trancher. Mais c'est super difficile la toute première fois que tu dois prendre position, parce que c'est pas ce qu'on t'a appris. On t'a pas appris à prendre position, on t'a appris comme si il y avait une réponse juste et comme s'il y avait une réponse fausse.
Fausse, oui, je vois.
C'est ça. Mmh. En fait, on t'a pas appris à penser. C'est ça, en fait. On t'a pas appris à penser, et au Mexique, on m'a appris à penser. Et ça, c'était une chance incroyable. Et puis, déjà, dans ce cours que j'avais suivi sur le droit des personnes roms, j'avais aussi on m'avait un tout petit peu appris déjà un petit peu à penser. Mais, donc ouais, c'est ça, en fait.
Heureusement que c'est des expériences pour continuer à affiner ton projet et mieux comprendre ce que tu voulais faire,
ouais,
avec le droit.
Non, c'est sûr.
Mais justement, beaucoup de personnes qui nous écoutent sont des personnes qui sont assez engagées et qui peut-être seront intéressées par le droit. Qu'est-ce que toi tu conseillerais aux personnes qui débutent tout juste dans cette filière-là et qui, comme toi, sont passionnées juste du judiciaire et qui se retrouvent pas forcément dans les filières classiques universitaire.
Bah,
Ça
déjà,
peut être
c'est
pas
qu'il
facile
faut.
du tout,
Ouais,
quoi, puis
non,
ça
c'est
dure
sûr que
longtemps.
ça dure longtemps. Et puis, non seulement, enfin, les cours sont pas forcément intéressants, mais la classe aussi, elle est, enfin, c'est, la majorité des personnes qui font les études de droit, c'est, enfin, voilà, les gens qui vont commencer droit, ils vont voir de quoi je parle, quoi. Il n'y a pas besoin que j'explique trop. Mais après, il y a plein de gens, enfin, déjà, la première chose, il y a plein de gens, en vrai, qui font quand même du droit pour ces raisons-là, donc il faut les trouver, mais elles sont dans les auditoires. Et parce que moi j'en ai rencontré plein et puis à Genève mes copines c'est des avocates et c'est des avocates engagées et c'est des femmes inspirantes et en fait elles sont toutes passées par le droit donc elles sont quelque part dans l'auditoire il y a ces gens et puis c'est qu'il faut pas lâcher en fait je pense enfin si enfin peut-être que un des conseils c'est de s'approcher de milieux qui seraient peut-être déjà un peu engagés assez vite pour voir qu'est-ce qui est possible de faire avec le droit parce que le droit c'est pas tout enfin c'est pas c'est quelque chose qui s'inscrit peut-être dans divers mouvements sociaux mais c'est pas la réponse à tout enfin je pense qu'il faut vraiment de tout pour la justice sociale mais le droit ça peut être un outil et en fait quand on se rend compte déjà que cet outil il est pas du tout démocratisé qu'il y a des choses que une fois qu'on a fait du droit, on sait comment chercher dans la loi. Alors, tout le monde devrait savoir comment chercher dans la loi. C'est vraiment quelque chose que je me suis beaucoup dit en faisant des études. Et que c'est un outil que si on peut le transmettre à des autres personnes, c'est hyper important. Peut-être se dire qu'on fait du droit, pas pour le garder juste pour soi et puis devenir un avocat super, ou une avocate super, avec qui a beaucoup de succès, etc. Mais se dire c'est aussi quelque chose que je vais transmettre, un outil que je vais essayer de partager avec d'autres gens pour que les gens puissent aussi s'en servir, en fait.
Et donc, après tes études, comment est-ce que tu as commencé professionnellement?
Alors quand tu fais du droit, ouais. Bah quand tu fais du droit et si tu veux devenir avocate, il faut que tu fasses donc tu fais ton bachelor, ton master à Genève. Il y a quelque chose qui s'appelle l'école d'avocature qui est 6 mois. Il faut que tu fasses ça et après il faut que tu fasses un stage de 1 an et demi. Et ensuite tu passes l'examen du brevet d'avocat. Et donc moi j'ai fini mon master justement au Mexique. Je suis revenue pour faire l'école d'avocature. J'ai terminé. Et après, j'ai commencé à bosser, à faire un remplacement dans un syndicat.
D'accord.
Et en parallèle, je travaillais comme assistante d'un avocat, assistante juridique. À un moment donné, il était question peut-être de prolonger mon contrat au syndicat. Et à ce moment même, il y a l'avocat pour lequel que je travaillais qui m'a dit qu'il connaissait un collègue qui cherchait quelqu'un pour un stage. Et du coup, j'ai postulé au même moment. Et en fait, c'était quelqu'un qui faisait des droits humains. Et j'avais vraiment
Wow.
envie de faire mon stage. Bon, après, j'ai cherché pendant très longtemps hein, le stage, juste pour ça, enfin, pour préciser aussi, j'ai cherché pendant longtemps. J'ai envoyé beaucoup de dossiers, j'ai envoyé plus de 50 dossiers. J'ai eu 10 entretiens, 10 entretiens ratés. Donc, enfin, c'était pas juste du jour au lendemain, j'ai débarqué puis j'ai eu mon stage. J'ai fait 10 entretiens que j'ai ratés. Et après, j'ai eu ma place de stage chez un avocat qui est spécialisé en droit des personnes en situation de handicap. En fait, j'ai fait mon stage là-bas.
Super intéressant. Et comment c'était ces premières expériences? Qu'as-tu appris?
Bah déjà, j'ai appris à prendre la défense. Enfin, c'est vraiment ça, en fait. Déjà, dans le syndicat, c'était comme ça. Donc, j'ai vraiment appris à prendre la défense de personnes. Enfin, vraiment, de se positionner clairement utiliser le droit pour défendre quelqu'un. Donc, vraiment, l'utiliser de sorte à ce que tu puisses en faire des arguments valables, même si parfois le cas te semble perdu d'avance, de vraiment tout le temps aller plus loin, chercher où est-ce que tu pourrais trouver certaines solutions juridiques. Donc ça, je l'ai vraiment appris pendant mon stage. Et je pense que j'ai aussi, pendant mon stage, en fait, moi, mon maître de stage, il était aussi dans la politique et il travaillait aussi pour une association. Donc il était aussi poli, il faisait plusieurs trucs quoi. Et ça m'a aussi permis de me rendre compte que le droit c'est pas tout, que le droit c'est important, que la défense des personnes c'est important, mais que si tu fais rien à côté d'un point de vue collectif, les défenses individuelles au bout d'un moment ça peut sembler fatigant si ton objectif il est plus large. Et du coup ça m'a vraiment permis de me rendre compte de l'importance aussi de la mobilisation collective, en fait, et que c'est pas que la défense de cas individuels qui va faire changer les choses, même si pour les gens ça peut faire changer les choses. Et puis un cas individuel et quand il y a une réussite pour une personne, c'est toujours hyper contente, mais que si tu veux des changements plus grands sans le collectif, tu vas nulle part, en fait. C'est ça que ça m'a appris aussi mon stage.
Ouais, j'imagine, lorsqu'on fait des études de droit, on élargit pas forcément nos angles de vie et les outils qu'on a à nos dispositions.
Ouais, c'est ça. Et je pense que aussi, il y a aussi cette vision de l'avocate ou de l'avocat qui est un peu la solution à tous les problèmes.
Mmh.
Et puis, même si t'as un avocat et qu'il te défend bien, la politique migratoire en Suisse, en fait, elle est extrêmement stricte, restrictive, raciste.
Mmh.
Et du coup, même si t'as le meilleur des avocats, au bout d'un moment, le problème, c'est la loi, en fait. Et c'est la loi, et puis après, c'est peut-être même les juges, c'est les gens qui l'appliquent. Donc, si tu veux juste prendre des au bout d'un moment, tu te rends compte qu'il faut que tu n'es pas la solution à tout, et qu'en fait, il va falloir des actions politiques plus larges pour demander du changement. Et je pense qu'il y a aussi ce biais quand on fait des études de droit où on pense que du coup, et je pense que ça reste longtemps, enfin je pense que je l'ai encore aussi parfois, enfin dès que quelqu'un te raconte un problème où tu vois du droit, t'as toujours l'impression que tu vas pouvoir trouver une solution.
Mmh.
Et c'est en fait, t'as toujours envie de trouver des solutions, mais en fait parfois la solution elle est plus large.
Mmh.
Il faut que tu sois sur le plus long terme. C'est des choses qui sont pas juste individu par individu, mais il faut que tu vois quelque chose de plus collectif. Et je pense que ça, le droit... souvent, on a tendance à penser que soit l'avocat ou l'avocate, c'est la solution. Soit, ouais, puis il y a aussi cette image qui t'est renvoyée, tu vois, quand t'as fait du droit. T'es la personne qui a la solution. Alors qu'en fait, non, tu vois. T'es pas la personne qui a la solution. Et ça, je pense qu'il faut rester humble, en fait. Il faut pas l'oublier.
À présent, j'aimerais parler un peu plus de tes engagements culturels et associatifs. Donc, tu fais partie du collectif Fête des Vagues. Ça vient d'où ce nom?
Donc il y a deux membres du collectif Fête des Vagues qui avaient déjà pensé à ce nom avant qu'on crée officiellement le collectif Fête des Vagues le 8 mars 2017. Et qui avaient déjà pensé et réfléchi à un événement, puis elles s'étaient déjà dit qu'elles pouvaient se constituer en Fête des Vagues. Et en fait, quand on s'est toutes rencontrées, elles ont été d'accord qu'en fait on devienne tout ensemble le collectif Fête des Vagues, ce qu'elles avaient déjà commencé, en fait, qu'on puisse le devenir nous. Et en fait, Fête des Vagues, le nom, il vient de, c'était l'idée de dire qu'en fait nos parents ils nous ont toujours dit que, enfin voilà, on devait être contente d'être ici, qu'il fallait pas faire trop de bruit, que, enfin voilà, faut pas, on a de la chance d'être en Suisse, et que du coup faut un peu qu'on, dans le sens où faut pas trop qu'on fasse des vagues, en fait. Faut pas trop faire des vagues, parce que voilà, on est ici et c'est déjà une chance. Et en fait, l'idée, c'était de, enfin justement, faire des vagues, et qu'on puisse faire des vagues. En fait, on est ici, mais on appartient aussi à ici, et on va pas se taire, en fait, on va faire des vagues. C'était
D'accord.
pour ça qu'en fait le titre Faites des vagues.
D'accord.
C'était pour faire des vagues. Enfin, vraiment, c'est l'idée.
Pas mal du tout. Donc, ce collectif a pour but de susciter la réflexion et l'action par la culture, les arts et le débat autour des questions sur les identités et les appartenances multiples, dans un contexte où les violences et les inégalités qui touchent les personnes minorisées ne décroissent pas. Vous vous mobilisez contre le racisme, le sexisme, l'hétéronormativité et le validisme, en mettant à jour la manière dont les personnes sont à la croisée de ces inégalités. Waouh, c'est vraiment inspirant. Et vraiment. Et moi, j'ai une question, parce que j'ai aussi lu cette phrase. Le collectif a la conviction que c'est en refusant de se plier aux impératifs contradictoires de l'altérisation d'un côté, standardisation de l'autre, que les personnes issues des groupes minorisés s'affirment, se créent des espaces de liberté et posent un regard nuancé sur le monde. Est-ce que tu peux en dire plus sur cette partie? Parce que
le collectif, c'était vraiment l'idée de créer un espace dans lequel on puisse s'exprimer et faire vivre et donner vie à des projets, ou de militer pour des projets qui nous ressemblent et dans lesquels on puisse se reconnaître, et qui nous ressemblent comme nous-mêmes on se définit, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas qu'on peut être qu'on peut avoir des identités qui sont pas forcément celles qu'on nous assigne, qu'on peut à certains moments, enfin que voilà, on peut avoir des identités fluides, qu'on peut être les personnes qu'on a envie d'être sans entrer dans des cases dans lesquelles on pourrait forcément nous prédéfinir. Et en fait, créer ces espaces pour pouvoir être nous-mêmes, en fait, et être nous et nous définir par nous-mêmes. Et donc, que justement, que ça puisse passer par l'art, des espaces de création, ou, enfin voilà, enfin après, on fait aussi du militantisme plus classique, traditionnel, disons. Voilà, enfin, c'est vraiment un espace où on se donne la liberté d'être nous-mêmes et de pas forcément entrer dans des cases. Et en fait, notre premier événement, c'était le 8 mars 2017 justement, et c'était un événement qu'on a appelé Muslimness, parce que plusieurs de nous dans le collectif, on appartient ou on est identifié justement à cette identité musulmane, et c'était comment en fait comment est-ce qu'on se définit nous-mêmes en nos propres termes dans ce qu'on a décidé d'appeler justement lors de cet événement la Muslimness, en fait. Comment est-ce qu'on se reconnaît ou pas dans cette identité qui nous est attribuée ou pas. Et donc, enfin voilà, on a parlé autour de. C'est un événement qu'on a fait autour de ça.
C'était quoi comme événement?
C'était, donc on avait une table ronde avec plusieurs. Enfin, du coup, nous dans le collectif, on s'est présenté. Il y avait une dessinatrice qui s'appelle Nida et qui fait des super dessins sur. Elle a un compte Instagram. Elle s'appelle Nidonite sur Instagram. Et donc elle parle. Il y avait elle et il y avait Anan Karimi qui est une chercheuse sociologue. Enfin maintenant elle a été. Elle vient d'avoir le poste de maîtresse de conférence dans une université. En France, et donc à l'époque elle était en train de finir sa thèse de doctorat, et donc elle est aussi intervenue. Elle a fait sa thèse de doctorat sur des questions notamment en lien avec de discrimination, d'islamophobie, et puis elle a notamment théorisé cette question du labyrinthe de verre pour les femmes qui portent le foulard dans le mon monde professionnel, la manière dont c'est difficile d'accéder au monde professionnel et comment est-ce que tu peux être réassigné à des espaces domestiques. Et donc elle traite des questions d'islamophobie. Et en fait, donc il y avait une table ronde et ensuite il y avait on a fait plusieurs petites tables, un peu ateliers entre guillemets. Il y avait un atelier où en fait on regardait des films qui étaient faits justement sur des questions d'identité musulmane, comment est-ce que les films peuvent reproduire des clichés orientalistes, comment est-ce que la femme musulmane dans les films est toujours dépeinte d'une certaine manière, elle doit être libérée par le blanc, par la France. Et ensuite, il y avait un autre atelier, c'était un atelier de détournement d'affiches de l'UDC, donc prendre des affiches de l'UDC puis les détourner pour en faire des affiches de résistance en fait. Et puis il y avait un autre atelier où c'était justement discussion avec Anan Karimi et puis sur des questions d'islamophobie et de féminisme. Et puis c'était ces trois petits ateliers ensuite. Et ensuite il y a eu un compte rendu. C'était vraiment un super. Enfin moi je garde un super souvenir de cet événement. C'est un événement vraiment puissant et que j'ai vraiment beaucoup. Je pense dont on est vraiment fiers en fait avec le collectif Fête des Vagues.
C'était une bonne manière de commencer cette aventure.
Ouais.
Mais d'ailleurs, comment elle a commencé cette aventure?
Comment elle a commencé? Bah, je pense que de nous toutes, si tu questionnais chacune de nous,
Tout le monde va dire quelque chose de différent, c'est ça?
ouais, tout le monde dirait quelque chose de différent. Donc moi, je peux dire que ma version, sachant que voilà, enfin, les autres, elles ont sûrement des expériences complètement différentes. Alors moi, j'étais allée plusieurs fois à des ateliers qui avaient été organisés à l'époque par le collectif Afro-Suisse sur comment utiliser les outils afro-féministes contre le racisme. Et j'avais beaucoup aimé ce qu'elle faisait et j'avais vraiment beaucoup aimé le travail que faisait le collectif Afro-Suisse. Et donc j'avais approché une des membres du collectif qui était Fanny, mais qui ensuite était plus dans le collectif, mais Fanny, qui est donc la créatrice de Lasagna, de Dasagna, l'agenda à Genève, qui fait donc l'agenda afro-caribéen, des événements afro-caribéens à Genève. Donc je l'avais approchée en lui disant que, ben voilà, j'avais adoré l'atelier auquel j'avais assisté, mais que j'aurais beaucoup aimé pouvoir parler de ces questions-là avec, enfin, que j'aurais bien aimé pouvoir aborder ces thématiques aussi d'un point de vue avec des femmes. Je sais pas comment est-ce que j'ai dit ça à l'époque, mais je sais pas, soit moyen-orientale, soit musulmane looking ou musulmane. Enfin, j'avais envie de pouvoir aborder ces questions-là aussi avec des femmes arabes. Peut-être ce terme plus large dans lequel je pense qu'aujourd'hui on peut dire que beaucoup de personnes iraniennes ou même afghanes entrent parfois dans ce terme arabe, alors que on parle pas l'arabe, mais c'est une identité un peu assignée et de laquelle je veux pas me détacher, parce que souvent les personnes iraniennes veulent aussi revendiquer qu'elles sont pas arabes pour montrer, enfin c'est aussi des questions de pour montrer qui est le plus blanc, en fait. Voilà, c'est toujours cette question de toujours vouloir être blanc, plus blanc que blanc. Et donc du coup, enfin voilà, j'avais envie en gros d'aborder un peu ces questions là et en fait elle m'a parlé, elle m'a dit mais faut absolument que je te présente Inès, vous entendriez trop bien lors d'un rendez-vous d'un réseau qui s'appelle Genre, Droit et Sexualité, qui est organisé au sein de l'université. J'ai rencontré Lucia et je pensais qu'elle était iranienne. Et donc, elle n'est pas iranienne, Lucia, mais elle travaille sur l'Iran et elle travaille beaucoup sur les questions d'orientalisme et sur le féminisme, des questions féminisme postcolonial. Et donc, en fait, tout de suite, on s'est très bien entendu et elle m'a aussi dit, faut que je te présente quelqu'un qui s'appelle Inès. Donc, deux personnes qui m'avaient parlé d'Inès. Et en fait, Lucia, elle a décidé d'organiser. Donc, on s'est beaucoup entendu avec Lucia. On a beaucoup parlé justement de ces questions de féminisme postcolonial. Elle m'a beaucoup parlé de ce qu'elle faisait en Iran, du travail. Elle est chercheuse, donc c'est une chercheuse, et du coup, le travail qu'elle faisait sur les questions sur l'orientalisme, etc. Et elle a organisé un repas chez elle. Elle a invité Inès, elle m'a invité moi, elle a invité Noémie, qui est donc une autre des membres du collectif. Et Noémie a invité une copine à elle qui s'appelle Idil. En fait, on a toutes mangé chez Lucia. Et c'est là qu'en fait, c'est à ce premier repas qu'on a su qu'on voulait faire un événement. Et qu'en fait, qu'on s'est créé. Ensuite, on s'est re-rencontrés chez Inès pour préparer l'événement, etc. Mais disons que le premier, c'était là qu'on s'est rencontrés pour la première fois, qu'on a su qu'on voulait faire quelque chose de cette rencontre, qu'on voulait faire quelque chose de cette rencontre, et ce qu'on voulait en faire, c'était justement ce 8 mars, Muslimness. Et donc, c'est de là que tout est parti, en fait. C'est de là que tout est parti. C'est de ce repas chez Lucia.
D'accord. Et au final, vous ne connaissez pas beaucoup à ce moment-là?
Non, on se connaissait pas du tout. Enfin, moi, je connaissais Lucia, j'avais déjà vu Noémie dans d'autres événements, notamment Post-It, le groupe de recherche, et puis les diffusions de films qu'il faisait pour discuter des questions postcoloniales. Et donc je l'avais croisé à plusieurs événements. Inès, c'était la première fois que je la rencontrais. Et en fait, entre nous, on se connaissait pas beaucoup. On se connaissait pas. Enfin, il y en a que j'ai. Idil, je l'ai rencontré ce soir-là. Inès, je l'ai rencontré ce soir-là.
Donc c'est vraiment la rencontre de femmes qui partagent les mêmes intérêts, les mêmes valeurs et qui veulent faire bouger les choses.
Exactement, ouais.
Tu as parlé du 8 mars 2017 sur Muslimness. Quelles ont été les autres actions et activités passées du collectif?
Alors, donc on a fait justement ce 8 mars. Ensuite, on avait fait, pendant plusieurs années, pendant le mois de Ramadan, on avait fait un événement qu'on appelait toujours Iftar. Une fois, on a fait Iftar Open Mic, donc c'était, on cassait le jeûne, et ensuite, il y avait un open mic. Il y a des personnes qui ont lu des textes qu'ils avaient écrits, il y a des personnes qui ont rappé, il y a des personnes qui ont parlé. Enfin, c'était vraiment open mic. Donc, ça s'est passé à la librairie arabe de l'Olivier, au Paki. Une autre fois, on a invité aussi pendant le mois de Ramadan, pour un Iftar, on a invité une stand-up woman qui s'appelle Jogustine, qui fait de l'humour intersectionnel. Donc je conseille vraiment d'aller regarder ce qu'elle fait.
De l'humour intersectionnel.
Ouais, elle est top, elle est super.
Comment ça se définit, ça?
Bah, elle fait de l'humour. Enfin, franchement, il faut l'écouter pour. C'est vraiment ce qu'elle fait. C'est vraiment. Enfin, c'est vraiment ça. C'est de l'humour intersectionnel. Et elle dit qu'elle rigole de là où ça fait mal. Enfin, c'est des. C'est du, voilà. C'est.
D'accord.
Après, elle a écrit aussi deux livres. Elle a écrit un recueil de nouvelles qui s'appelle 9 histoires lumineuses là où le bien est le mal. Donc ça, c'est son premier recueil de nouvelles. Et ensuite, elle a écrit récemment un livre qui s'appelle « Ah si, si, il faut souffrir pour être française ». Et du coup, on l'a aussi reçu avec Fête des Vagues pour qu'elle puisse présenter ce livre-là. Cette fois-ci, on l'a reçu à la librairie La Dispersion à Genève.
D'accord.
Et on a fait ces événements-là. On a aussi on a écrit dans le courrier une tribune avec... avec deux autres femmes, Marlène et Jemila, et ensuite il y a une femme qui avait fait une illustration aussi. Donc on avait écrit ça lorsqu'il y avait eu un règlement pour interdire le burkini dans les piscines dans les piscines publiques en fait. Donc on avait écrit une chronique. Ensuite on a invité une écrivaine qui s'appelle Beata Umubi Meres. Qui avait écrit à l'époque deux recueils de nouvelles, un qui s'appelle Ejo et l'autre qui s'appelle Lézard, qui sont vraiment deux magnifiques recueils de nouvelles. Donc c'est une écrivaine franco-rwandaise qui a d'ailleurs publié l'année passée son premier roman qui s'appelle Tous tes enfants dispersés. Et donc elle, on l'a invitée aussi pour qu'elle puisse nous présenter ses recueils de nouvelles. C'était un très 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 bel événement. C'est très enrichissant de la rencontrer. Enfin, c'est vraiment une femme incroyablement inspirante aussi. Et
je mettrai bien sûr toutes les références dans la description.
On a aussi milité du coup contre la loi sur la laïcité à Genève. On a fait partie du comité référendaire, donc on est allé récolter des signatures. On a vraiment milité contre la loi qui du coup interdit le port du voile dans la fonction publique à Genève. Mais malheureusement, ça a échoué. Mais on a été très active sur ce volet-là. Et puis notre plus récent événement, c'était Tituba. Donc on a, en gros, on a avec une comédienne qui s'appelle Melissa Katokessa, on a fait une performance théâtrale du roman Tituba de Maryse Condé. Ça a eu lieu au Tabine juste avant que tout ferme en raison de du coronavirus. Donc ça, c'était notre dernier événement. Et puis là, on a été active pour les organisations des manifestations. Enfin là, la dernière manifestation contre les violences policières qui a eu lieu à Genève. On a aussi participé à l'organisation de cette manifestation-là. Donc voilà, enfin, c'est vraiment... C'est assez divers ce qu'on fait. Et c'est... Voilà, on se laisse assez libre sur nos envies de création, de proposition. Après, c'est vrai que voilà, enfin, on travaille tout à côté, que c'est pas toujours facile la vie d'un collectif, mais ça en vaut vraiment, vraiment la peine en tout cas.
D'accord, c'est vraiment très inspirant. Ça demande quand même beaucoup de compétences, beaucoup de. Un réseau aussi, des partenariats qui sont nécessaires. C'était facile de se lancer dans cette aventure?
On vient toutes de domaines très différents. On a toutes chacune des compétences vraiment très diverses. Mmh. Et je veux dire qu'on est assez complémentaires dans ce collectif. Et puis, enfin, la toute première fois où on s'est rencontrés, il y a d'autres personnes aussi qui étaient membres du collectif et qui sont ensuite sorties. Mais il y a aussi Elisa qui était membre du collectif, qui était aussi une chercheuse. Elle est partie pour des raisons justement de surcharge et des questions personnelles. Mais il y a Yasmine aussi qui est donc une des membres du collectif qui elle a beaucoup travaillé sur des questions de médiation culturelle, communication, enfin qui est... En fait on a chacune des domaines de compétences vraiment très différents les unes des autres. Et en fait on est assez complémentaires et en fait le tout premier événement qu'on a fait, on l'a vraiment fait voilà, on a demandé à la maison de quartier des Paquis s'ils étaient d'accord de nous laisser l'espace. Et voilà, enfin, on est parti comme ça, quoi. Puis après, on a appris à faire des demandes de fonds pour l'événement Tituba. Mais avant l'événement Tituba, on n'a jamais fait de demande de fonds. On a tout autofinancé. Donc, ouais.
Voilà. C'est vraiment très inspirant. Parce que beaucoup de personnes, encore une fois, qui nous écoutent sont porteurs de projets, ont beaucoup d'idées. qu'est-ce qui, selon toi, est primordial lorsqu'on se lance dans une telle aventure, lorsqu'on veut créer un collectif, une association, développer un projet, une idée qu'on a, donner vie à quelque chose qui est finalement très important pour nous?
Bah, je pense que déjà, il faut se faire confiance et que souvent, on voit trop petit et qu'en fait, on peut voir plus grand encore. Et enfin là, c'est vraiment ce qu'on se rend compte avec le collectif Edevac, c'est que enfin peut-être que parfois on se met des barrières alors qu'en fait c'est pas nécessaire et que en fait si on a une idée, il faut se lancer et puis au pire on se casse la gueule, mais en tout cas il vaut toujours mieux essayer de se lancer dedans. Et je pense qu'il faut se faire confiance et le réseau il se crée petit à petit, on rencontre des personnes en faisant en fait, mais c'est en tout cas, faut oser aller de l'avant. Je pense qu'il faut vraiment qu'on ose plus aller de l'avant et qu'on ne voit pas qu'on se mette pas des barrières nous-mêmes, en tout cas. Faut pas qu'on se mette nous-mêmes des barrières.
En tout cas, merci beaucoup, Vista. On arrive à la fin.
Merci beaucoup. Merci à toi.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Un grand merci à Steph pour la production. Vous pouvez retrouver tous les livres dont Vista nous a parlé, ainsi que les artistes qu'elle a mentionnés. Un grand merci également à Pete et Patricia pour la musique. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, ou moins, vous pouvez laisser vos notes sur Apple Podcasts, ainsi que vos impressions. Je vous invite également à laisser vos remarques, questions sur les réseaux sociaux. Nous avons Instagram et Facebook. Vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter pour ne rater aucun épisode de podcast ou article de blog.